Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Loïc Tassé est avec nous pour parler de politique, mais là, à travers le monde, Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour, Monsieur du Trisac.
Bon, alors, aux États-Unis, pour commencer.
Ben, aux États-Unis, il y a de grands débats, et un des grands débats qui viennent de surgir, c'est celui sur le passeport vaccinal. Et un passeport vaccinal, ça permettrait pas seulement de voyager, de franchir la frontière américaine, mais ça permettrait aussi d'assister à des événements, d'aller à des matchs, je sais pas, de baseball, d'assister à des spectacles, et même d'aller manger au restaurant. Alors, ça se ferait avec un téléphone intelligent, on présenterait ça sur son téléphone intelligent, on dirait « oui, j'ai été vacciné contre la COVID-19 », ou alors ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent pourraient avoir un bout de papier qui certifie qu'ils ont été vaccinés, et allez hop, ils pourraient à ce moment-là entrer dans un restaurant, dans une salle de spectacle, etc. C'est quelque chose qui semble sourire à beaucoup d'Américains, d'autant plus qu'on en a discuté. Il va y en avoir à peu près 200 millions qui vont être complètement vaccinés d'ici la fin du mois.
Mmh.
Et ça se fait en Israël, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Puis il y a des pays européens qui en discutent aussi.
Ouais.
Le problème, c'est, oui, mais un instant, qui va avoir ces données-là? Et est-ce que on rentre pas sur, est-ce que ça risque pas de précéder, de créer un précédent? Est-ce qu'on pourrait pas étendre ce genre de pratique à d'autres domaines? Il y a des gens qui disent, oui, mais tant qu'à avoir un vaccin contre la COVID-19, est-ce qu'on pourrait pas dire aux gens, ben, soyez aussi vaccinés contre la rougeole, contre ceci, contre cela? Ou encore, n'ayez pas d'antécédent judiciaire, parce que ça existe dans certains endroits. Tu sais,
Pourquoi on parle des antécédents judiciaires quand on parle d'un passeport vaccin? On a déjà des vaccins dans notre passeport, dans notre passeport santé. Il me semble que là, ça dérape.
Ça dérape un peu, et effectivement, c'est juste pour te montrer que le débat se fait en fait entre des démocrates et des républicains. C'est les républicains qui veulent pas ça, parce qu'ils disent justement ça pourrait nous entraîner dans une négation de toutes sortes de libertés, et on veut pas que l'État vienne mettre son nez dans notre vie privée, et on a le droit de... Mais oui, mais c'est parce qu'en même temps, tu risques de contaminer d'autres personnes, puis on veut relancer l'économie et on s'entend que ça durera pas. C'est pas quelque chose qui est là pour longtemps. C'est simplement transitoire. Mais donc, les démocrates eux disent, ben oui, ce serait sympathique de faire ça parce que ça permettrait de relancer l'économie. Et en plus, ça inciterait des gens à se faire vacciner. Mais c'est donc le débat entre des gens qui sont très conservateurs, souvent très religieux. Je te signale que t'as la moitié des évangélistes, donc 12% d'Américains, qui pensent que faut pas se faire vacciner du tout, c'est Dieu qui décide. Alors, écoute, ça va contre eux. C'est ça le débat en ce moment. Donc, on voit un peu les positions là-dessus. Moi, je pense qu'ils vont finir par avoir un passeport vaccinal aux États-Unis.
Ben, on va suivre ça. Il y a Joe Biden aussi qui, lui, reconnaît qu'il y a un problème avec les logements aux États-Unis.
Oui, ben il y a un gros problème avec les logements parce qu'il y a le tiers des Américains qui paient le tiers de leurs revenus pour leur logement. On trouve que c'est beaucoup trop aux États-Unis. Puis il n'y a pas de logements qui sont disponibles dans les centres-villes. Alors donc, il a décidé de verser 5 milliards de dollars aux municipalités qui vont changer leur réglementation urbaine pour permettre la construction de logements plus petits, une densification urbaine, surtout dans toutes sortes de quartiers qui sont des quartiers réservés aux résidences familiales. Sauf que ça a des conséquences énormes. C'est parce que les bastions républicains, qui sont des bastions souvent de maisons unifamiliales, pourraient être attaqués politiquement à long terme, dans le sens où tu aurais, dans des quartiers résidentiels, des immeubles à loyer plus modique, et qui iraient s'installer là, ben souvent des gens qui sont moins aisés, qui sont plus pauvres, et ça pourrait faire changer le vote dans un comté, ça, assez facilement. Ça pourrait aussi faire diminuer le nombre de quartiers qui sont presque exclusivement réservés aux Blancs. Donc, tu vois tout de suite le débat raciste et le débat politique qui s'instaure aux États-Unis avec cette politique-là. C'est à l'intérieur de son plan d'infrastructure à Biden. Plus que ça, si on pouvait aller un peu au-delà de ça, tu sais, il y a quand même un problème, c'est que la population augmente dans tous les pays du monde. Puis les gens veulent habiter dans des quartiers agréables. Mmh. Sauf que si tu habites dans un quartier agréable, puis pour que tu y habites, on construit des tours désagréables, ben le quartier agréable est plus agréable. Et donc, t'as un problème. Tu regardes juste au Québec. En 30 ans, la population a augmenté du tiers. Bon. Mais on fait comment pour rendre, pour faire, pour permettre aux gens qui le veulent de tous habiter dans des quartiers agréables tout en gardant ces quartiers agréables. Donc, c'est vraiment des débats qui sont des débats très, très profonds. On n'a pas trouvé vraiment de solution à tout ça. Peut-être qu'une des solutions, c'est de construire d'autres centres-villes ailleurs, d'autres centres-villes agréables aussi, tu sais. Mais ça, ça signifie de l'étalement urbain. Tu vois, c'est un débat sans fin. Mmh. Mais on est là-dedans aux États-Unis en ce moment.
Et pendant ce temps, en France?
Oh, grosse nouvelle pour le milieu universitaire, le milieu des fonctionnaires. Macron a décidé officiellement de fermer la prestigieuse École nationale d'administration, l'ENA. Et ça, c'est une école qui était ouverte depuis 1945. C'est Charles de Gaulle qui avait instauré cette école-là parce qu'il manquait de hauts fonctionnaires. Évidemment, ils avaient été décimés par la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une école d'élite qui forme supposément les meilleurs fonctionnaires. Ils n'acceptent que 100 personnes par année. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que dans cette école, les étudiants étaient souvent des enfants de parents qui étaient eux-mêmes passés par l'ENA, qui eux-mêmes avaient des grands-parents qui s'étaient... Puis là, tu dis, mais attendez, là, c'est supposé être ouvert à tout le monde. Et il y a très peu, en fait, de mobilité sociale qui passe à travers cette école. Donc, on a décidé de l'abolir parce que, en effet, Macron trouve qu'il y a peu de mobilité sociale en France, que la mobilité sociale est moins forte qu'il y a 50 ans. Il a raison là-dessus. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème, c'est aussi qu'il y a toute une partie des fonctionnaires qui est déconnectée de ce qui se passe sur le terrain avec les gilets jaunes ou encore avec les ratés de la lutte contre la COVID-19. Et soit dit en parenthèse, il est toujours plus facile d'accuser les fonctionnaires quand on a un problème que de dire, quand on est politicien, c'est notre faute, c'est nous qui avons un mauvais jugement. Mais tu vois aussi là où ça s'en va. Et puis, en France, il y a quand même un problème hiérarchique très, très fort. Je pense que si tu parles à n'importe quel Français qui vient ici, ou à peu près, il va dire « Ah oui, en France, moi j'avais un beau diplôme d'université, mais je pouvais pas avoir tel boulot parce que je venais pas de la bonne université. Je ne venais pas d'une grande école. » Ce qui est complètement ridicule. Complètement ridicule. Mmh. Et donc, ils ont ce problème en France, qui est un problème de hiérarchisation. Ils ont eu la révolution, tu sais, ils ont fait la révolution, mais... Ils ne sont pas des partis vraiment des privilèges en France. Par exemple, en Amérique, en général, nous, on n'a pas cette hiérarchie très, très forte. On peut parler à tout le monde. Puis, tu sais, t'as un diplôme d'université, bon, d'accord, fais tes preuves. Fais tes preuves, tu sais. En France, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et donc, ils essaient de casser un petit peu cette hiérarchie, mais c'est très culturel, c'est très profond.
Ouais. Et en Inde, Loïc, à propos de la COVID,
ça va mal aussi, très mal, parce que en Inde, ils avaient à peu près 10 000 cas par jour, nouveaux cas de Covid au mois de février, et au mois de mars, il y a eu plein de festivals religieux, plein. Et c'est les festivals religieux qui ont été encouragés en plus par les dirigeants. Résultat, ben le nombre de cas a été multiplié par 13. Ils sont rendus à 127 000 cas par jour. Et l'Inde est juste derrière les États-Unis en termes de nombre de cas au total de la COVID-19. Ça va très, très mal, donc. Et l'Inde, qui était protégée par la relative jeunesse de sa population, semble plus être protégée en ce moment. En plus, qu'on sait que les nouveaux variants s'attaquent aux gens plus jeunes. Donc, l'épidémie semble être devenue hors contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des festivals religieux. Mais pourquoi est-ce que les dirigeants ne les ont pas interdits? Parce que Modi, qui est le premier ministre, a un agenda qui est un agenda nationaliste et religieux, qui est surtout dirigé contre les musulmans, contre le Bangladesh, contre le Pakistan. Et donc lui, il fait la promotion de ce genre de nationalisme religieux à travers tous les festivals religieux. Il veut surtout pas les interdire, mais le résultat, c'est que maintenant, l'Inde est aux prises avec cet épi de COVID-19 qui semble être devenu incontrôlable dans ce pays d'1,2 million d'habitants.
Hey boy, ouais, et puis là, les variants qui vont s'ajouter à ça, ouais. Très mauvaise nouvelle. Loïc, on se laisse là-dessus, on se reparle demain.
Salut, à demain.
Merci.